Avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Deux journalistes et leur chauffeur pourraient avoir été tués par des dissidents des FARC entre l'Équateur et la Colombie. Ils avaient été enlevés fin mars. Situation critique, a dit cette nuit le président équatorien. Nous irons à Quito dès le début de ce journal.
Nous reviendrons aussi sur l'intervention d'Emmanuel Macron hier midi. Le chef de l'État n'a pas rassuré les cheminots, point de crispation, notamment la dette, dont personne ne veut, vous l'entendrez.
Focus aussi sur la colère dans les universités. La ministre Frédérique Vidal est notre invitée ce matin, alors qu'hier soir, la Sorbonne était évacuée par les forces de l'ordre.
Et puis, deux ans après sa mise en place, des prostituées jugent préjudiciable la pénalisation des clients. Les violences et la précarité augmentent, disent certaines associations, preuve à l'appui.
Après ce journal, dans un gros quart d'heure, Frédéric Saïz énumérera dans son billet politique les ressemblances rhétoriques entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Ils étaient introuvables depuis près de trois semaines, deux journalistes équatoriens et leur chauffeur. Ils ont été enlevés à la frontière avec la Colombie par des dissidents des FARC et auraient été tués. Hier soir, en tout cas, la chaîne de télévision colombienne RCN affirmait avoir reçu des photos prouvant leur mort. Bonjour Éric Sanson.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Quito. Dans la foulée, hier soir, le président équatorien Lénine Moreno, arrivé à Lima pour participer au sommet des Amériques, il a annoncé qu'il repartait immédiatement pour Quito, évoquant une situation critique.
Le président équatorien était visiblement atterré lorsqu'il a pris la parole jeudi soir dès son retour de Lima. Alors, il n'a pas encore franchi le pas de confirmer la mort de nos collègues du quotidien El Comercio, mais c'était tout comme. Officiellement, des experts analysent encore les trois photos de ce que l'on croit être les cadavres du reporter Javier Ortega, du photographe Paul Rives et de leur chauffeur Efraín Segarra. Les vêtements de deux des cadavres coïncident et je sais que l'un est reconnaissable. Mais bon, comme ce ne sont que des photos, le président Moreno a dit qu'on ne pouvait pas encore être sûr à 100%, mais il a quand même parlé de leur mort comme d'une possibilité considérable, et sa voix s'est même cassée lorsqu'il a évoqué le fait que leur départ pouvait être définitif.
Alors Éric, l'Équateur n'a pas l'habitude de ce genre d'événement. Quelles sont les conséquences possibles de la probable disparition de vos collègues ?
Alors pour résumer, on semble se diriger vers l'intervention des forces armées équatoriennes dans le conflit. Le président Moreno a lancé un ultimatum de 12 heures aux dissidents des FARC pour prouver que leurs otages n'étaient pas morts. Et il a eu le temps de demander au président colombien de prendre ses responsabilités pour la sécurité de la zone frontière.
Nous avons assez attendu, ai-je dit au président colombien. Il faut des actes forts. Nous ne pouvons pas les laisser nous imposer leurs règles. Nous allons accepter le combat sur le terrain qu'ils ont choisi, dans les conditions qu'ils ont choisies, et nous allons les vaincre.
Il faut noter que la Colombie n'est probablement pas fâchée de voir les Équatoriens prendre les armes. C'est ce qu'elle a toujours souhaité, placer la guérilla des FARC, ou aujourd'hui les groupes dissidents des FARC, entre le marteau et l'enclume. Le groupe responsable de l'enlèvement et du probable assassinat de nos collègues a d'ailleurs déjà menacé l'Équateur de nouveaux attentats et de nouveaux enlèvements.
Merci Éric Sanson à Quito ce matin pour France Culture. Donald Trump a réuni ses conseillers à la sécurité nationale hier soir. Ils ont débattu de la situation en Syrie, mais aucune décision n'a encore été prise sur une éventuelle riposte militaire quant aux soupçons d'attaques chimiques dans la route orientale. Emmanuel Macron affirmait hier encore avoir eu la preuve de ces attaques chimiques. Réunion parallèlement aussi du gouvernement britannique qui a estimé hier que des mesures étaient nécessaires, mais qui attendent se coordonner avec Paris et Washington. Les trois chefs d'État et de gouvernement doivent s'entretenir au téléphone dans la soirée.
Et dans l'actualité, Clara, ce vendredi matin aussi, la colère des cheminots de la SNCF.
Dont certains sont de nouveau grévistes ce vendredi. Ce n'est pas l'intervention d'Emmanuel Macron hier midi sur TF1 qui les a rassurés. Le chef de l'État a affirmé qu'il ira jusqu'au bout de la réforme ferroviaire. Il est toutefois resté très flou sur la reprise de la dette de la SNCF, sujet pourtant jugé majeur par les syndicats, Nabel Grelier.
Il réclamait un geste de l'État sous la forme d'une reprise de la dette. Emmanuel Macron y aura répondu par une promesse à long terme et non chiffrée. La dette de quelques 50 milliards d'euros sera reprise en partie dès le début, puis le reste progressivement en fonction de l'avancée des réformes, a indiqué le président. Une vague promesse donc en échange de la transformation du statut de l'entreprise ou encore la suppression du statut des cheminots déjà adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Et c'est bien ça qui fâche tous les syndicats des cheminots. cheminots, la rhétorique habituelle d'Emmanuel Macron et son exécutif, qui laisse penser que tous les problèmes que rencontrent les usagers seront réglés sur le dos des cheminots, comme s'ils en étaient responsables. Faites des efforts et on verra pour la dette qu'on vous a mise sur le dos, c'est du chantage et c'est insupportable, estime le secrétaire fédéral de Sudrail, Éric Meyer. Pour le secrétaire général de la CFDT, Didier Aubert, les annonces du chef de l'État ne sont pas de nature à répondre aux enjeux de la réforme ferroviaire. En aucun cas, il n'a fait d'annonce qui permettrait de financer les infrastructures ou de libérer la SNCF de cette dette qui l'empoisonne, dénonce-t-il. Au-delà de la réforme, les syndicats dénoncent la méthode de l'exécutif qui organise, selon eux, des concertations de pure forme depuis le début du mois de mars. Un exécutif qui reste sourd à leurs suggestions, loin d'avoir apaisé la colère des syndicats, Emmanuel Macron a plutôt confirmé cette même posture qui ne laisse entrevoir à ce jour aucune sortie de conflit.
Un conflit qui passe donc par la grève. La direction de la SNCF prévoit aujourd'hui un TGV et un TER sur 3. Perturbation plus importante sur les intercités puisque 4 trains sur 5 ne circuleront pas. Alors que débutent ce soir les départs en vacances pour la zone C, départ et retour aussi pour la zone A. Et puis ajoutons que la réforme ferroviaire a été examinée dans sa totalité par les députés de l'Assemblée nationale cette semaine. 82 amendements ont été adoptés en 4 jours, dont le fameux sac à dos social. Le vote solennel en première lecture aura lieu mardi à l'Assemblée. Autre mécontentement qu'Emmanuel Macron n'a pas su calmer hier midi, celui de certains étudiants et enseignants-chercheurs dans les universités. Nous l'évoquons dans les Matins de France Culture avec notre invité Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ces étudiants occupent une quinzaine de sites un peu partout en France depuis le début du mois. Des agitateurs professionnels, des professionnels du désordre, disait hier le chef de l'État, Ludovic Piétenu.
C'est particulièrement paternaliste pour un président de la République de parler comme ça à des étudiants qui se mobilisent, estime Lila Lebas, elle est la présidente du syndicat UNEF. De jour en jour, en fonction des assemblées générales, la situation fluctue dans les universités, mais la tendance est plutôt à la baisse, ce qui n'augure pas de la suite. Après certaines évacuations policières, la protestation en effet souvent redouble et les sites sont réoccupés. 4 universités sont entièrement bloquées ou fermées. Jean Jaurès à Toulouse, Paul Valéry à Montpellier, Rennes 2 et Paris 8 Saint-Denis. Ensuite, on compte une dizaine d'universités dans lesquelles des sites sont ou vont être bloqués. C'est déjà le cas, par exemple, de Tolbiac au sein de Paris 1 ou le bâtiment administratif de l'université de Strasbourg à partir de lundi. On peut citer aussi Lyon 2 ou Nanterre Paris 10. La question en suspens sur tous ces campus, c'est bien la mise en œuvre des examens. Hier, Emmanuel Macron prévenait, les étudiants doivent comprendre une chose, s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République. Une déclaration qui, dans et autour des amphis, n'a pas fini de faire réagir.
Alors pour pouvoir organiser ces examens qui débutent pour certains dès lundi, les présidents d'université en appellent maintenant aux forces de l'ordre. Hier soir à Paris, le site de la Sorbonne a été évacué. Les étudiants souhaitaient voter l'occupation des lieux, mais environ 200 d'entre eux étaient restés bloqués devant les portes, stoppés donc par les CRS. Évacuation totale finalement aux alentours de 22h. Écoutez le dépit, la honte presque de cet étudiant en troisième année de licence de philosophie à la Sorbonne, Jérémy.
C'est inadmissible. On est en démocratie, dans un état de droit. On est des étudiants pacifiques. On voulait juste tenir une assemblée générale qui ne nous a pas été donné le droit de faire. Aujourd'hui, le pouvoir montre son vrai visage. Il ne veut pas de contestation, il ne veut pas d'opposition. Alors que nous, on ne faisait rien. Ils sont obligés d'envoyer des quarantiers de CRS pour venir nous déloger. On est en t-shirt, ils sont en tenue de combat. Comme des camarades l'ont dit, ils se sont fait traîner dehors. Rien à dire, c'est juste inadmissible. Au début, on rigolait, les gens rigolaient, disaient bon, il y a 2-3 clampins qui bloquent une fac. Aujourd'hui, la Sorbonne Mère a été touchée, la plus grande fac de France a été touchée. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas des branleurs qui sont là, c'est des gens qui bossent. Aujourd'hui encore, j'étais à la bibliothèque, moi, pour y voir mes partiels. Donc on n'est vraiment pas des branleurs qui veulent pas leur cours.
Voilà, des blocages à la Sorbonne notamment, mais des examens demandés tout de même par les étudiants. Notez qu'à Tolbiac, à Paris hier, les CRS ont quitté les lieux tard hier soir en laissant des dizaines d'étudiants manifester qui avaient été rejoints par certains cheminots. Frédéric Vidal, vous êtes l'invité des Matins de France Culture, ministre, je le rappelle, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Face aux évacuations, la mobilisation grandit sur certains sites. Quelle est la solution ?
La solution, c'est
continuer d'évacuer.
C'est d'avoir une réponse qui soit toujours proportionnée à ce qui se passe sur les sites. Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Montpellier notamment, Une occupation qui a démarré suite à une assemblée générale, qui s'est prolongée avec des étudiants qui ont été autorisés à rester la nuit sur les campus, alors que les campus sont naturellement fermés la nuit. Ça a débouché sur le saccage des serveurs. Donc, il faut toujours être en capacité de doser ce qu'on est en train de faire. Et une fois de plus, les présidents ont un travail extrêmement difficile à faire et ils sont sous une pression extrême parce que des débats dans les universités, on sait faire, des assemblées générales, on sait faire. Par contre, on a rarement vu des étudiants qui veulent bloquer les examens d'autres étudiants parce qu'un étudiant sait que une année universitaire, c'est important. Le travail qui a été mis dans cette année, c'est important. Ils savent qu'il faut que leur diplôme ait de la valeur parce que c'est ces diplômes-là qui vont ensuite les aider à s'insérer. Ils savent qu'il faut qu'ils obtiennent leur licence pour aller en master. Donc, toute la question, c'est lorsque ça démarre de manière bon enfant, par une assemblée générale, mais qu'ensuite certaines ne veulent pas quitter les lieux, et puis que du coup d'autres groupes peuvent venir s'installer, s'infiltrer, et qu'ensuite ça débouche sur de la violence. Il faut savoir doser. Il faut savoir doser, et c'est très compliqué. Et je remercie vraiment tous les collègues qui, sur le terrain, sont en train de vivre ces moments difficiles pour leur calme et leur sang-froid.
Merci Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, invité des matins de France Culture. Nous vous retrouvons dans un gros quart d'heure et vous restez avec nous au moins jusqu'à 9h moins quart. À Notre-Dame-des-Landes, les expulsions, elles sont terminées. Le déblaiement a commencé sur la ZAD par les occupants, dos baissé au-dessus de ce qui était leur cabane et leur ferme. Déblaiement aussi des gendarmes mobilisés ce matin pour dégager les axes routiers qui traversent la ZAD. Aucune expulsion n'est prévue aujourd'hui, précise la gendarmerie. Alors qu'hier, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, demandait le retour aux négociations pour faire émerger, dit-il, d'éventuels projets non collectifs autour d'une agriculture durable. 2 ans après la pénalisation des clients de prostituées, quel bilan ? La France, sur le modèle de la Suède, la Norvège ou le Royaume-Uni, avait mis fin il y a 2 ans donc au délit de racolage public avec des amendes à l'encontre des clients des prostituées, 3 750 euros. En 2 ans, plus de 2 500 personnes ont été verbalisées, mais quelles ont été les conséquences pour les prostituées ? Un parcours de sortie a été mis en place pour certaines femmes. Pour les autres, qui sont majoritaires, leur situation s'est en revanche aggravée depuis 2016. Une enquête de Médecins du Monde l'explique. Et c'est un sujet très clivant, Tara Schlegel.
Pour les mouvements abolitionnistes, que la personne prostituée soit désormais victime et le client coupable change la donne. La présidente du collectif féministe contre le viol, Emmanuelle Piette, est médecin.
Oui, hier, en consultation, j'ai vu une jeune femme qui, lors d'une relation tarifée, a subi un viol, elle a été agressée et séquestrée. Et elle a appelé la police au secours, parce que le gars ne la lâchait pas et qu'elle a eu un moment en contact avec son téléphone. Et là, elle a dit « mais j'étais à l'aise pour appeler la police ». Parce que c'est pas moi qui faisais le truc interdit.
Mais d'après l'enquête de Médecins du Monde, auprès de 583 prostituées, 88% sont contre cette pénalisation des clients. La loi ne leur donne pas plus de pouvoir quand elles sont agressées, assure Sarah Marie Maffezoli de MDM.
L'obstacle pour porter plainte, c'était pas le fait qu'elles étaient délinquantes parce que passibles de poursuites pour racolage public. Les obstacles, c'est qu'elles n'avaient pas de titre de séjour, c'est qu'elles ne parlent pas français. Ces obstacles-là n'ont pas été pris en compte et donc le fait d'instituer la pénalisation des clients en disant ça va inverser la charge pénale ne change absolument rien et au contraire ça a juste favorisé les violences qui existaient déjà auparavant.
La pénalisation des clients a entraîné leur raréfaction, les revenus de 78% des prostituées interrogées ont baissé, mais ce n'est pas tout, dit Tim Lester de Médecins du Monde.
Moins de clients, ça veut dire que les clients restants se seront retrouvés avec d'autant plus de pouvoir pour négocier les prix à la baisse, négocier les pratiques de prévention à la baisse, donc négocier par exemple des rapports sexuels sans préservatif.
Une partie des femmes a aussi quitté le trottoir pour Internet, où les premiers contacts se font par téléphone. C'est plus difficile de juger et cela réserve de mauvaises surprises parfois quand on ouvre sa porte. En somme, les violences ont augmenté sans conteste depuis 2 ans.
Un reportage de Tara Schlegel. Ils sont jugés pour avoir tenté de traverser la mer Méditerranée, considérés comme des passeurs malgré eux. Des dizaines de migrants sont trop souvent arrêtés en Italie ces dernières semaines, ces derniers mois, et ils sont condamnés pour aide au passage illégal de la frontière, à l'origine de vrais passeurs libyens qui les obligent à mener un bateau à bon port sous la menace d'une arme. Pour le magazine de la rédaction diffusé ce soir sur France Culture, Raphaël Kraft nous raconte.
C'est au dernier moment, lorsque la centaine de migrants se trouve déjà entassée sur un bateau pneumatique, conçu pour n'en accueillir qu'une dizaine, que les passeurs libyens désignent celui qui le conduira. Deux autres, contraints eux aussi, doivent tenir le compas et le téléphone satellite, un anglophone de préférence qui appellera les secours une fois atteintes les eaux internationales. Les bateaux à coque dure, qui nécessitent la présence à bord de professionnels, ne sont pour ainsi dire plus utilisés par les passeurs libyens, qui se sont adaptés à la présence toujours plus importante de navires militaires de surveillance des frontières maritimes de l'Europe méridionale. Les bateaux pneumatiques, plus dangereux, sont moins onéreux et n'obligent pas la présence d'un passeur à bord. Sans interlocuteur fiable dans une Libye à l'appareil d'État défaillant en proie à la guerre civile, les polices européennes et l'italienne en particulier ne parviennent pas à démanteler ce qui ressemble davantage à une collection d'artisanats contrôlés par des milices ou des gangs qu'à des filières organisées. Sommés par leur ministère d'obtenir des résultats, et en vertu de la loi qui punit sévèrement l'aide au passage illégal de la frontière, policiers et magistrats italiens de Sicile et du sud de l'Italie arrêtent des migrants qui n'ont le plus souvent conduit ces bateaux que pour sauver leur peau.
Passeurs malgré eux des plages de Libye jusqu'aux prisons de Sicile. Voici donc le reportage de Raphaël Kraft réalisé avec Annie Bro. Il sera diffusé en longueur ce soir à partir de 17h sur France Culture et sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. Radio France a une nouvelle présidente. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a choisi hier Sybille Veil. La quadragénaire était jusqu'à présent directrice déléguée en charge des opérations et des finances au sein de Radio France. Elle entamera donc lundi un mandat de 5 ans. Sybille Veil est issue de la même promotion de l'ENA qu'Emmanuel Macron. Un vendredi moins pluvieux qu'hier dans l'ensemble, entre nuages et éclaircies ce matin. Les averses devraient arriver dans l'après-midi par la façade ouest. Quelques gouttes sont attendues également sur le Grand Est. Et les températures, globalement comme hier, avec 9 degrés à Gap, comptez ce matin 10 degrés à Brest, 11 à Besançon, 12 degrés à Lille, 13 à Bordeaux, Limoges et Bayonne, 14 degrés à Lyon et sur l'Île-de-France, jusqu'à 15 degrés ce matin à Marseille.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.